Allez, bonjour tout le monde. Cette fois-ci, on met la vidéo parce que nous allons décrire avec le grand spécialiste français, le professeur de la course en montagne, Sylvain Cachard. Nous allons décrire le calendrier.
On va essayer en tout cas. Salut.
Voilà, alors Sylvain, pour ceux qui sont nouveaux sur le Patreon, qui sont là depuis à peine 2-3 semaines, nous avez fait un très joli résumé de sa course à Sierzinal où il a été quatrième, meilleur temps français également. Donc c'était assez intéressant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement aux courses en montagne. Alors Sierzinal, Sylvain, c'était pas tout à fait de la course en montagne.
Ouais. Historiquement, c'en est une, mais bon, on verra ça un peu en détail. Les définitions sont un petit peu complexes, mais on va dire que c'est sûr qu'au niveau du temps d'effort et de la distance, ça peut rentrer plus à du trail quand même, faut se l'avouer.
Oui, parce que ça se gagne, voilà le record, un petit peu en dessous de 2h30. Donc, nous, on va s'intéresser à la course en montagne. Alors, justement, est-ce que tu peux nous définir cet effort? Parce que on voit trois catégories: le short uphill, le classic mountain, ça c'est peut-être ce qu'on a le plus en tête, et puis le long mountain.
Ouais, bah c'est ça. En fait, ça, c'est au niveau, on va dire, de l'instance WMRA, donc World Mountain Running Association. Et ça, c'est vraiment comment elle définit la course en montagne. Et c'est ce qui est, on va dire, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est commun à tous les coureurs en montagne, c'est vraiment ces trois différents types de formats. Il y en a deux qui sont vraiment. En tout cas, qui sont faciles à comprendre et qui sont au goût du jour. Il y en a un autre qui, on le verra, c'est pas, enfin voilà, c'est eux dans leur côté qui appellent ça long mountain, mais qui au final, bon, ça peut rentrer un peu à du trail quoi. Et donc en fait, t'as un premier format classique mountain, c'est celui que tout le monde a en tête, c'est très souvent le format des championnats de France de course en montagne par exemple. En gros. C'est une distance d'environ, enfin un effort d'environ 1 heure de course pour les premiers. Bon, ça peut varier entre 50 minutes et 1 heure et quart, et avec du dénivelé. Alors souvent, il y a plusieurs montées, plusieurs descentes, parce que c'est vrai que une des capacités vraiment de la course en montagne, c'est enchaîner très rapidement une montée, une descente, remonter, redescendre, etc. Donc ça c'est le classique up and down on l'appelle. Et ensuite, il y a le short uphill. En fait, ça, c'est pas un kilomètre vertical, c'est parce que ça reste athlétique. Un kilomètre vertical, c'est vraiment très très raide, c'est tout en force. Ouais, je sais pas si t'en as déjà couru, quoi, mais t'as le kilomètre vertical du Grand Cerf qui est très connu,
Ah
qui est
bah
très
j'ai fait
connu.
celui-là.
Ah bah voilà, bon, ça c'est voilà, t'as dû aimer, je suppose.
J'ai pas couru.
Ouais, voilà, c'est ça. Souvent, tu cours 100 mètres et ensuite tu fais que marcher. Donc c'est une discipline plutôt proche. On va dire qui plaît en tout cas aux skieurs alpinistes, mais donc la course en montagne, elle de base, elle se veut athlétique. Et donc en fait, le short uphill, c'est plutôt, on appelle ça une montée sèche. Et en gros, c'est pas obligé 1000 mètres de dénivelé. Et surtout, les pentes, c'est pas des pentes à 40, 50, 60%. C'est on peut tout le temps courir plus ou moins. Donc c'est pareil, c'est entre 45 et 1 heure et quart, 45 minutes et 1 heure et quart d'effort. Et donc c'est un profil montant. Il peut y avoir quelques petites descentes, mais c'est un profil surtout montant. Ça, et ensuite, du coup, il y a la troisième catégorie, la long mountain. Ça, en fait, c'est parce que historiquement, en fait, le trail, c'est très jeune dans les disciplines de course hors stade, on va dire. Avant, c'était vraiment des courses nature ou des courses en montagne. Et donc, en fait, historiquement, il y avait ces trois disciplines. C'était ce qui était normal, entre guillemets, c'était jusqu'à 1 heure et quart d'effort. Il y avait des montées sèches et des montées de descente. Et puis ensuite, tout ce qui était au-delà 1 heure et quart, il y avait quelques courses qui existaient comme ça. Hein. T'as Sierzinal, t'avais, on en verra plein d'autres. En Italie, des Giardi Monte, etc., des Fleta Trail, qui dépassent en fait les formats d'une heure, 1 heure et quart. Et du coup, on appelle ça la course en montagne longue distance. Et en fait, ça, jusque moi, j'ai couru un championnat du monde de course en montagne longue distance. C'était en Patagonie en 2019. En fait, c'était avant qui est ce nouveau format de championnat d'Europe de course en montagne et de trail ou championnat du monde de course en montagne et de trail. Il y avait un championnat du monde de trail et des championnats Europe et monde de course en montagne. Et du coup, lors de ces championnats du monde et d'Europe de course en montagne, tu avais aussi un format long, mais qui était exactement pareil, le format que des championnats du monde de trail en fait. Et donc, heureusement qu'ils se sont un peu tout mis d'accord, mais et qu'il y a maintenant la course en montagne, c'est court au championnat du monde et championnat d'Europe, et puis le trail, c'est long. Mais du coup, historiquement, il reste encore ce format de course. Et il y a encore certains circuits de la Coupe du Monde de course en montagne qui ont des courses, enfin certaines compétitions, pardon, du circuit course en montagne qui ont des courses longues. Et on appelle ça des courses en montagne longue distance. Mais pff, en vrai, c'est du trail, quoi.
Ouais, ok. Bon. Eh ben, merci pour ces différences. Alors, il y a un truc aussi, tu vois, qui m'a que je connaissais pas, que tu m'as appris, c'est que les Coupes du Monde, en fait, il y a des labels. Parce que là, tu nous as
Ouais.
donné trois catégories, et en fait, dans ces catégories, tu peux avoir un label, donc or ou argent.
C'est ça. C'est ça. En gros, il faut se creuser la tête un peu. Mais il y a vraiment trois catégories. Et dans chaque catégorie de course, il y a deux labels en gros qui donnent un peu. Donc qui permet plusieurs choses. Déjà, quand on choisit la course, les labels gold, donc or, c'est les meilleurs. On va dire que c'est l'équivalent de la World Cup. En biathlon, et après tu as l'IBU Cup ou alors l'European Cup, on va dire un truc comme ça. En gros, c'est au niveau de la densité des coureurs et donc aussi de l'attribution des points. Par exemple, comme c'est un classement Coupe du Monde, comme dans tous les classements Coupe du Monde, chaque course, en fonction de ta position, tu as un nombre de points, et à la fin de la saison, on additionne le nombre de points, celui qui a plus de points a gagné. Et en fait, si tu gagnes une course voilà, Silver Label, tu auras moins de points que si tu gagnes une course Gold Label. Donc après, toutes celles déjà que la course en montagne, et c'est pour ça, je pense aussi, l'objet de cette petite visio, cette petite explication sur la course en montagne, c'est que c'est pas très, très médiatisé. Donc souvent, en fait, les courses qu'on connaît, si on en connaît, c'est forcément des Gold Label, les Silver Label. Si je te dis Tatra Sky Race en Pologne ou des choses comme ça, je pense pas que ça te dise grand-chose. Voilà, c'est les courses un peu, ça donne un peu de visibilité aux courses, mais en vrai, il y a pas grand monde, en tout cas, qui court la Coupe du Monde, qui vont sur ces courses-là.
Ok, ouais, on voit sur le tableau des points, effectivement, une
Ouais.
silver, ça rapporte pas trop, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Ok, et alors après, ce qui était intéressant, tu vois, que je t'avais demandé, en fait, c'est les avantages financiers, parce que c'est vrai que dans le trail maintenant classique qu'on commence à connaître, il y a quelques primes qui sortent un peu du lot au Golden, sur les finales UTMB. Et donc, en course en montagne, par contre, c'est beaucoup plus dans la culture, ça a toujours existé, toutes ces primes-là.
Ouais, franchement, moi, c'est un truc qui m'avait bien choqué au début, parce que voilà, moi, c'est vrai que pour l'instant, je suis plus sur le côté, enfin, en tout cas, maintenant, je suis plus sur le côté trail, mais c'est vrai que depuis 2016, je fais que de la course en montagne. Et en fait, quand tu fais de la course en montagne, tu es obligé de voyager. Enfin, tu es obligé, à part les championnats de France, en France, il n'y a pas beaucoup de courses en montagne, on le verra. Et donc, il faut toujours aller à l'étranger. Et c'est là vraiment, en fait, où j'ai découvert ça. C'est assez fou. Alors, ça reste des sommes par rapport au vélo, enfin, on ne compare même pas au foot, hein, mais par rapport au vélo ou au triathlon, c'est des facteurs 100, donc c'est 100 fois moins environ. Mais en gros, il y a toujours cette culture de récompenser en argent les coureurs qui courent. Mais en fait, c'est quelque chose d'hyper tabou, mais c'est pas que dans le monde de la course en montagne ou du sport, hein. On le voit même dans le monde professionnel ou quoi. En France, l'argent et la rémunération, c'est hyper tabou, alors que dans les autres pays, c'est pas du tout un sujet tabou. T'en parles, et au contraire, c'est normal d'en parler. Et ce qui est fou, tu vois, même après, on abordera un peu les primes à la gagne ou quoi. Mais par exemple, tu vas sur une course en montagne en Italie. Entre la 10e et la 15e place, tu as toujours 100 balles ou 50 balles, quoi. Tu vois, enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas une fois où j'ai fait une course en montagne et j'ai pas eu de prime. Genre, si tu chies ta course ou quoi, tu fais 10e, 15e, mais tu as toujours 50 balles, quoi. Tu vois, alors que en France, le premier, il aura peut-être 100 euros de bon d'achat sur n'importe quelle course à niveau équivalent par rapport en Italie, tu vois. C'est même sur leur championnat, par exemple. Sur leur championnat, nous, en France, la fédération mettra jamais d'argent et c'est l'organisateur qui le mettra, et donc souvent il n'y en a pas. Donc on a des primes vis-à-vis des sponsors, mais jamais par rapport à l'organisation ou la fédé. Alors qu'en Italie, par exemple, j'ai déjà couru plusieurs fois, ou au moins une fois, hein, des championnats d'Italie, et à chaque fois ils ont de l'argent. Pour le premier Italien, il y a une prime pour le premier Italien, même s'il fait cinquième, parce que devant il y avait deux Kenyans, deux Français, voilà quoi.
Ah ouais. Et en Suisse aussi, non? C'est un peu culturel aussi.
Ouais, pareil, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié de mentionner ça. En Suisse, il y a vraiment aussi ce côté. Bon, c'est Suisse, tout est cher là-bas, donc heureusement que si tu cours, tu as de la thune, quoi. Non, non, mais c'est.
C'est
Même
vrai.
sur les petites courses, moi j'ai vraiment des bons potes italiens et suisses aussi qui font de la course en montagne. Et c'est vrai que sur même les petites courses, en Italie, ça reste quand même, je pense que j'ai une vision un peu biaisée, parce que quand je fais des courses en montagne en Italie, c'est pas la course aux sauces, quoi. C'est soit des Coupes du Monde, soit les championnats d'Italie, etc. Mais j'ai l'impression qu'en Suisse, en tout cas, la moindre petite course ou quoi, tu as toujours au moins une prime au record. Au moins. Enfin, c'est vraiment. Enfin, tu vois, à Montreux, même des petites courses comme la Dérupt ou quoi, dans la vallée de Sierzinal, et en gros, tu as toujours au moins une prime au record, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment. Ouais, parce que, je sais pas, moi, je vois ça, je sais pas comment tu vois ça, mais moi, je vois ça en mode en course en montagne, on respecte la performance, tu vois, c'est-à-dire que en trail, c'est un sport de masse, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes. Alors qu'en course en montagne, t'as peu de personnes, mais c'est vachement élitiste. Ça, on le verra. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les primes qui le montrent. Mais il y a vraiment ce côté de. Ouais, de. Bah, on sait ce que ça vaut, quoi. On sait ce que ça vaut, la performance que tu viens de faire, en fait. C'est ça, même ce côté de prime au record. Tu vois, sur une course au saucisson, je trouve ça bien parce que, en vrai, ça se trouve, il y a personne, tu vois. Enfin, il n'y a personne l'année où tu le fais. Donc, une prime à la victoire, ça vaut rien. Mais la prime au record. Vu que c'est des courses très anciennes, etc., en fait, c'est hyper dur d'aller les chercher et ça gratifie vraiment l'effort physique et ça montre de la part de l'organisation un certain respect envers la performance que tu as faite, quoi.
Ouais, moi j'aime bien ces primes au record parce que souvent ils gardent du coup bah, le même parcours forcément.
Bah, c'est
Et
ça.
là tu vois Rémi Bonnet qui bat le record de Pikes Peak, le record d'Athènes 1993. Moi je me suis
Ouais,
replongé
c'est
dans
ouf.
les photos de l'époque, c'était incroyable.
Ah oui, non, mais c'est. C'est fou. Et en fait, je pense que ça, c'est aussi lié à la dimension historique de la course en montagne, en fait, que n'a pas le trail. Tu vois, c'est vraiment, ouais, 40e, 50e. Là, c'était la 50e de Sierzinal. C'était aussi la 50e édition de Fleta Trail, qui est une autre course très connue aussi en Italie. Et je pense que c'est vachement lié à ça.
Et alors après, donc ça, c'est pas des primes, mais t'as des facilités. Alors là, il faut remplir des critères, par contre. Donc, tu as le dossard payé. Bon, ça, c'est un classique en trail aussi. Le logement éventuellement gratuit, remboursement de frais, prime de départ. Et ça,
Ouais.
donc, tu nous décris un peu le curriculum vitae qu'il faut présenter pour avoir droit à ça. Là, c'est pas tout le monde, quand même, hein.
Non, non, non. Là, c'est pas tout le monde. Et là, il faut dire, là, c'est bien spécifique à la Coupe du Monde de course en montagne. Donc ça, c'est en gros, ça dépend de chaque organisation. Mais c'est vrai que par exemple, en trail, quand on t'invite, souvent on en rigole un peu mais parce que nous on a l'habitude de la course en montagne, mais souvent en trail, quand on t'invite sur une course, on t'invite à payer, quoi. Tu vois, c'est un peu ce côté on te file le dossard, puis après, enfin, tu passes un peu pour un rat ou pour un mec prétentieux si tu demandes, bah, enfin, je peux être hébergé, est-ce qu'on peut me rembourser mes frais, enfin, est-ce que vous me payez pour prendre le départ? Parce qu'en fait, si je viens sur votre course, bah, votre course doit avoir une certaine valeur, une certaine visibilité, tu vois, et. Il va y avoir une valeur ajoutée, donc c'est normal que moi, j'en ai un peu aussi, tu vois. Et ça,
Ouais,
c'est des choses bah, que moi, j'ose pas, en fait. J'ose pas demander parce que je sais que dans le milieu du trail, c'est pas du tout, ouais, c'est pas du tout démocratisé, en fait. Et en course en montagne, c'est normal. Enfin, tu vois, pour donner une anecdote, cette année à Sierzinal, moi, donc bien sûr, bah, comme dans toutes les courses, hein, toutes les courses, t'es défrayé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu payes, ça te coûte rien le voyage. T'es logé 3-4 nuits, parfois tu peux être logé une semaine, t'es nourri. La plupart des courses en montagne, on arrive, on a des espèces de vouchers, là, des tickets, puis on va dans n'importe quel restaurant de la ville, et puis on donne ce ticket, mais n'importe quel restaurant, et puis tu fais OK, très bien. Puis ça, matin, midi, soir, sans compter le repas de l'organisation et tout, t'as des primes de départ, c'est-à-dire que parce que tu es là, voilà, tu participes à la renommée de la course, et donc on te rémunère pour le fait de prendre le départ, même si tu finis pas. Et puis ensuite, tu as des primes à la victoire. J'ai même une course que j'adore en Italie, Trofeo Nasego. Tu as même un Grand Prix de la montagne. C'est-à-dire qu'en gros,
Ah
cette
oui.
course-là, on verra un peu plus tard dans le calendrier, parce que je l'ai mise. Mais en gros, si tu passes au sommet en tête, boum, tu prends aussi de l'argent. Mais à la fin, en fait, c'est des petites sommes. Donc, ce n'est pas ça qui te ferait vivre. Et puis le niveau, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le niveau, il est ouf. Donc, en fait. Ce que je trouve ça bien, c'est que enfin, moi, j'ai jamais fait une course pour des primes et vu la hauteur des primes non plus, enfin aussi, faut être dans les trois meilleurs mondiaux. En gros, si tu t'appelles pas Philemon Kyriago ou Patrick Kipengeno ou Rémi Bonnet, bah, enfin, t'y vas et c'est de l'argent de poche parce qu'en fait, ça sert à rien. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à trouver le juste milieu entre, bah voilà, on te respecte, on te paye pour ce que tu fais, mais en même temps, ça devient pas malsain en fait. Ça, pour personne, ça devient malsain. Parce qu'en fait, c'est pas grand-chose. Enfin, si tu fais je sais pas, une fois j'étais allé à Nazego, j'avais gagné, j'avais fait le record de la course. Ouais, je m'étais fait un SMIC, mais bon, j'étais dans la forme de ma vie, quoi. Enfin, non, même pas, j'avais dû faire 1000 ou 1100 euros. Mais j'étais dans la forme de ma vie et j'avais fait prime de départ, prime du Grand Prix de la Montagne, prime d'arrivée, tout maximum, tu vois. Et c'était 1000 balles. Donc, ouais, c'est top 1000 balles. Mais bon, à Paris-Roubaix, le mec qui gagne, il fait 250 000. Là, c'est pas la même échelle, quoi, tu vois.
Ah, puis tu vois, l'an passé, il y avait l'Ultra 01, donc à part Casquette Verte, qui est quand même assez fort hein, sur ce format, il faut lui reconnaître. Derrière, c'était pas la folie, et t'avais 3 000, 2 000 et 1 000 euros.
Ouais, bah, après, je trouve y a tout dans les primes. C'est entrée, j'ai l'impression que c'est soit tout, soit rien. Moi, dans le milieu, hein, je parle à pas mal de personnes qui me disent, ah bah là, je suis allé péter en Argentine pour faire une manche de la Spartan, il y avait 5 000 à la gagne, il n'y avait personne, je n'allais pas laisser 5 000 à un pimpin ou quoi.
Ah oui, les
Bon,
Spartans, il y a un petit peu aussi, ouais, c'est
ouais, tu vois,
vrai.
et ça c'est un état d'esprit. Enfin, moi, en tout cas, je suis incapable de l'avoir. Déjà parce que. Si je pense à la mauvaise chose, tu vois, j'ai eu, tu vois, ce truc de prime et tout, il m'a fallu peut-être 1 ou 2 ans avant, genre quand j'étais jeune junior, jeune espoir, et que j'allais faire des courses comme ça, je voulais que personne me parle de prime et je voulais pas regarder combien il y avait en fait, parce que sinon en fait, j'étais étudiant et tout, donc déjà pour moi 100 euros c'était beaucoup, tu vois, enfin ça me permettait de vivre presque un mois. Du coup, je me disais. Je faisais que y penser, tu vois. Il m'a fallu un peu d'expérience pour réussir à gérer ça et me dire, ok, bah en fait c'est normal, on te paye pour ce que tu fais et juste toi fais ta course, garde tes motivations saines, tes motivations intrinsèques par rapport juste au fait de courir et te donner le meilleur de toi-même et pense pas aux primes, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est dur à gérer et en trail, t'as des véritables mercenaires, hein. C'est clair et net, hein.
Ouais, parce qu'il faut être malin pour les voir, tu vois. Moi, je l'avais vu qu'après coup, cet Ultra 01 là,
Ouais, c'est ça. Mais en
ils avaient
même
pas
temps, enfin.
communiqué dessus, c'est con.
Ouais, mais est-ce que tu serais capable de prendre. Enfin,
Oh
après, ça se trouve,
non.
oui. Mais est-ce que tu serais capable de prendre un. Parce que ce qu'on fait, c'est dur, faut pas l'oublier, tu vois. Et moi, je me dis, est-ce que je serais capable de mettre la race et tout en course juste pour aller chercher de l'argent? Franchement, non. C'est bien plus simple d'être dans un bureau, le cul sur une chaise, 8 heures par jour, et là, tu vas chercher ton argent, easy peasy. Enfin, tu vois, j'ai
Ouais,
du
tu restes
mal
2 heures
à.
de plus le soir et hop, tu mets 100 balles de plus.
Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est. C'est le côté, ouais, franchement, moi en tout cas, je peux pas. Après, il y en a sûrement plein qui peuvent et tant mieux pour eux. Moi, franchement, je juge pas, mais en tout cas, je sais comment me situer par rapport à ça, tu vois. Mais toi, comment tu. Toi, l'Ultra 01, tu t'es dit, merde, putain, je serais bien allé faire cette course rien que pour la thune.
Bah, vu que c'est à 1 heure de route de la maison, tu vois, ça m'a
Ok.
traversé l'esprit.
Mais le moment où c'est
Donc.
dur et tout en course, tu te dirais pas, putain, mais qu'est-ce que. Enfin, tu vois, est-ce que tu aurais les ressources mentales pour te dépasser? Si c'est ta seule motivation, tu vois ce que je veux dire?
Non, parce que en fait, tu vois, j'ai tracé mon calendrier pour l'an prochain et finalement j'ai l'occasion d'aller faire le Lavaredo, qui est quand même un peu plus joli.
Ben oui, tu vois, je pense que.
Donc.
Mais bon, après, moi, je juge pas, je sais juste que moi, c'est pas dans mes capacités, quoi, tu vois.
Ouais, toi t'y vas parce que c'est la Coupe du Monde, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis j'y vais juste pour moi, pour me donner le meilleur de moi-même. Si à partir du moment où. Enfin, franchement, il y a des moments, mais tu le sais, autant en ultra, quand notre sport il est tellement dur, que franchement, la douleur qu'on ressent, si tu le fais pas pour toi, ça vaut tout l'or du monde. Franchement, enfin, tu peux me filer 10 fois plus que ce que j'ai en prime. Si à un moment donné, c'est que. Enfin, il n'y aura jamais assez d'argent qui me motivera pour me mettre dans des états dans lesquels je me mets en course, à part bah, des motivations intrinsèques, quoi, tu vois.
Ok, et ben alors après, avant de passer au calendrier, en fait, un fait intéressant que tu as relevé, c'est que il y a des courses très connues qui sont pas dans le calendrier de la course de la Coupe du Monde. Tu parles de Nerivu-Molaison et du Trofeo Vanoni.
Ouais, c'est ça. Bah, en gros, il faut voir ça un peu comme le vélo. Moi, je compare, pour expliquer, je compare toujours un peu ça au vélo. Bon, au vélo, tu as les points UCI et toutes les courses ramènent plus ou moins des points UCI. Mais déjà, pour comprendre que dans notre calendrier, les plus grandes courses, c'est les grands championnats, mais pas que. Ça, c'est vraiment comme en vélo. C'est-à-dire que Demande à un cycliste, tu préfères gagner Paris-Roubaix, gagner le Tour ou être champion du monde, il aura quand même du mal à te répondre. Nous, tu nous demandes, tu préfères gagner l'UTMB, gagner Serginal ou être champion du monde, on aura du mal à te répondre aussi. Et ça, c'est vraiment ça qui est important à comprendre. Et après, il y a des circuits Coupe du Monde, c'est-à-dire, donc ça, c'était plus en trail, ce dont je te parlais, et en course en montagne, c'est un peu pareil. C'est que tu as un championnat sur un jour, tu as une Coupe du Monde sur toute la saison, et ensuite, à côté, tu as quelques classiques qui sont vraiment jolies, qui sont vraiment en densité, qui sont équivalentes à des courses de Coupe du Monde, mais qui ne sont, font pas partie du classement Coupe du Monde. Il faut savoir aussi que ça tourne pour que ce soit pas toutes les. Enfin, il y a un vivier de courses en fait, et en fait, ça tourne pour avoir quelques étapes par saison et pas avoir tout le temps les mêmes, etc. Donc, tu as cité Trofeo Vanoni, Neri Vue Molaison, tu as aussi Smar Nagora en Slovénie. De toute manière, je les ai mis dans le calendrier derrière, donc j'expliquerai un peu les réjouissances de ces différentes courses. Mais voilà, c'est des courses monstres côté. Bah, Neri Vue Molaison avec Rémi Bonnet cette année, Saúl Padua, le Sud-Américain. Enfin, c'est des niveaux vraiment, vraiment, vraiment costauds avec des courses qui ont une histoire, mais elles sont pas en Coupe du Monde ou pas cette année. Smar Nagora, ça a été pendant très longtemps. Voilà.
Ah, ok, elles peuvent réintégrer le circuit l'année
Ouais, c'est
d'après.
ça. En fait, c'est
Elles
vraiment.
sont pas à la marge en mode on veut pas y participer.
Non, bah, alors après, ça peut parce que, en fait, comment participer à une course Coupe du Monde? Toi, en tant qu'organisateur de course, bah, ça t'amène de la visibilité, ça t'amène un plateau. Mais il faut savoir qu'au niveau, bah, t'as un cahier des charges à respecter. Comme quand, en tant qu'organisateur, tu veux organiser un championnat de France ou pire, un championnat d'Europe, un championnat du monde, t'as un cahier des charges vraiment conséquent. Aussi un apport financier, parce que du coup, tu vois, tous ces trucs, loger les athlètes, héberger les athlètes, ça, c'est des règles faites par la WMRA pour la Coupe du Monde. Et en gros, bah, voilà, une course veut être hôte d'une étape de Coupe du Monde. Bah, il faut loger, nourrir tous ces athlètes-là, il faut leur payer les déplacements, etc. Donc, c'est des frais en plus. Donc, parfois, il y a des courses qui peuvent certaines années, qui peuvent pas d'autres. Voilà, c'est pas. Souvent, là, en tout cas, c'est la course en montagne, c'est à Saint-Imis, c'est plus en mode si une course le veut, alors elle le sera, tu vois. Parce qu'il n'y a pas non plus 45 000 courses qui sont capables d'être manche de Coupe du Monde.
Ok. Alors venons-en au calendrier justement. Si on est un jeune coureur avide d'efforts autour de l'heure et qu'on veut se construire un palmarès sur plusieurs années, bah donc participer aux événements les plus prestigieux de la saison, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on fait rien de janvier à mars.
On fait rien, on se prépare. Non, il n'y en a pas en fait. J'ai essayé de chercher un peu, mais la saison, c'est vraiment mars, avril, octobre, quoi. C'est l'hiver, souvent les coureurs en montagne, il y a plusieurs écoles, mais la plupart quand même, ils font du cross. Soit ils s'entraînent et ils font aucune compétition, soit ils font du cross.
C'est ce que j'allais te demander, en fait. Donc, la course en montagne, c'est très, très vieux. Le ski alpinisme est peut-être plus récent. Donc,
Ouais.
toi, tu dis les mecs sont plutôt crossman, mais
Oui.
c'est pas des skieurs alpinistes.
Bah, ça peut aussi. Enfin, tu vois, tu as quand même, justement, tu as des coureurs qui ont un profil plus montée sèche. Je pense à des André Aprandi, des Henri Émono, même des Rémi Bonnet qui a aussi fait de la course en montagne, qui eux font du ski alpinisme l'hiver. Et tu as des profils plus rapides, comme il y avait les frères de Mathéis. Bah, même des Jonathan Wyatt, des Marco De Gasperi ou quoi, qui eux faisaient de l'athlétisme, venaient de l'athlétisme en fait, donc marathon. Et souvent en fait, ils préparaient un marathon au printemps et ensuite ils faisaient le marathon de mars-avril, puis ensuite ils switchaient sur la course en montagne, quoi. Mais c'est pas étonnant que bah, parfois ils faisaient 0 mètre de dénive tout l'hiver et ils allaient là-dessus, quoi. Et maintenant, on voit vraiment un peu. Ça dépend, il y a beaucoup de différentes manières d'aborder l'hiver. Il y en a qui aiment faire des compétitions, il y en a non. Il y en a qui font plus des sports de glisse, donc sur neige, donc plus eux ils travaillent, on va dire, la force et ils vont mettre de la vitesse quand arrive la saison. Il y en a d'autres qui font du cross, donc qui travaillent plus la vitesse et qui vont remettre de l'endurance de force en dénivelé quand arrive la saison. Il y a vraiment un peu de tout. Hein.
Ok. Arrive le mois d'avril et là on a un premier événement phare, mais ça nous concerne uniquement nous Français, c'est les championnats de France.
Ouais, donc ça, j'ai fait vraiment pour la saison prochaine. Mais ça
Ah
tend à
oui.
devenir. Ouais, ça, en fait, les championnats de France, il faut savoir que c'est support de sélection pour le grand championnat de l'année. Donc, ça peut être un championnat d'Europe, ça peut être un championnat du monde. Ça alterne une année sur deux. Et en gros, ça a pour but de sélectionner les coureurs et les coureuses en montagne pour le grand championnat qui arrive. L'idéal, souvent, c'est qu'il est situé entre 3 semaines et 1 mois avant le grand championnat. Ça permet en fait d'être déjà dans une assez bonne forme, mais de pouvoir remettre un cycle d'entraînement derrière pour arriver vraiment à la top forme lors du grand championnat. Donc ça, c'est le cas l'année prochaine. Cette année, on parle l'année prochaine, comme ça au moins ça sera clair et fixé pour tout le monde.
2024.
2024, donc championnat de France de course en montagne, ce sera dans les Vosges. C'est support de sélection donc pour les championnats d'Europe en montée-descente. Parce que, donc, comme la Coupe du Monde, il y a deux formats aux championnats d'Europe de course en montagne. Donc, sans parler de la longue distance, hein, qui vient du trail en fait. Mais donc, il y a le format montée-descente et le format montée-sèche. Et donc là, il a été fait le choix que le championnat de France soit en montée-descente. Donc, ce sera dans les Vosges, enfin, la deuxième moitié d'avril. Je ne sais pas exactement la date. Et
Ouais.
ça, de ce championnat en découlera une équipe de France féminine, masculine, junior homme et junior femme pour le format montée-descente. Voilà, donc ça sera le premier objectif de la saison des coureurs en montagne français.
D'accord. Parce qu'après, le championnat d'Europe, donc tu mets au mois de mai, mais ce sera fin mai, voire même peut-être le 30 mai, un truc comme ça,
Ouais,
c'est
ouais.
Annecy.
C'est ça. C'est ça, c'est le grand championnat d'Europe à la maison. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu
Ouais.
de grand championnat en France.
Ok. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu m'entends encore, Sylvain?
Ouais.
Tu m'entends?
Ouais, moi je t'entends. Tu m'entends?
Pourquoi il marche plus?
Moi je t'entends bien, hein.
Ah, putain. Ah. Là, c'est moi qui t'entends plus.
Ah, est-ce que tu m'entends?
Ah, c'est bon.
Ah, nickel.
Bah, il s'est
Ah, moi,
excité, là, le micro.
je t'ai toujours entendu. Hein.
Ok. Ouais, bon, bah, c'est de mon côté. Donc, je disais que au mois de mai, là, c'était plutôt fin mai, ouais, les championnats d'Europe, ils seront à Annecy.
Ouais.
Et tu nous mettais la montée du Ventoux aussi. Alors, ça m'a un peu surpris. Est-ce que c'est celle sur route?
Non. Non, 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 non.
Ah ben je connais pas
C'est.
du tout alors.
Ouais, ça, je l'ai mis parce que c'est une course en montagne. Déjà, pour trouver une course en montagne en France, faut un peu chercher, tu vois, un truc un peu stylé et tout.
Ah
Et
et la montée du col de Vence, ils font plus hein?
si, moi, bon, c'est sur route. Ouais, mais si,
Ah
j'aurais pu le mettre. Ouais,
ok.
j'aurais pu le mettre. Enfin, ça fait partie, je sais plus, existe encore de la Coupe de France de course en montagne. Ça, c'est pareil, c'est à l'époque du Trail Tour National. La Coupe de France de course en montagne, si tu en parles à des athlètes plutôt en fin de carrière, mais bien expérimentés comme des Jurançon Compte, des Manu Messa, et ils te diront qu'à l'époque, tout le monde jouait la Coupe de France de course en montagne, parce que vraiment, ça a une valeur vraiment historique. En gros, c'était exactement comme la Coupe du Monde, sauf que bah, c'était qu'en France. Et il y avait vraiment chaque course un gros niveau. Et donc, cette montée du Ventoux, ça en fait partie. C'est sur les chemins. Donc, en gros, au Ventoux, tu as un trail, le trail du Ventoux, le trail de rentrée pour tous les trailers. Tu as le semi du Ventoux, enfin, la montée par la route.
Ah
Et
oui.
tu as aussi donc la course en montagne, enfin, la montée sèche, la montée du Ventoux. Et ça, c'est vraiment une course en montagne, format montée sèche. Il y en a très, très peu en France. Parce qu'en fait, voilà, ça court tout le long. Tu as un gros dénivelé. C'est un petit peu long. Mais voilà, c'est une belle classique du calendrier français. Il n'y a pas une densité de ouf ou un niveau de fou. Mais en tout cas, c'est une belle classique historique du calendrier français.
D'accord. OK. Donc après les championnats d'Europe, là tu le disputes soit sur le format vertical, soit montée-descente, bah soit les deux, non? Tu peux faire les deux?
Au championnat d'Europe, ouais, en fait, ce dont je n'ai pas parlé, c'est au championnat d'Europe, du coup, tu as les deux. Et donc, tu auras aussi une sélection. Ça, je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas encore trop sorti. Mais il y aura aussi, c'est la première année qu'ils vont faire ça, il y aura une course de sélection en avril sur la montée sèche. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura potentiellement deux équipes de France parce qu'on s'est quand même rendu compte que des formats qui passent bien sur de la montée-descente ne sont pas forcément à l'aise sur de la montée sèche ou au contraire, comme les courses sont très rapprochées dans le week-end, le vendredi la montée-descente, le dimanche la montée sèche et moi le premier. Si je fais une course, je n'ai pas forcément envie de faire la deuxième parce que je ne veux pas être à 100%. Et donc, comme c'est à la maison, qu'on a à cœur de vraiment bien représenter la France, et bah, il va y avoir cette année deux courses de sélection. Donc, les championnats de France sur montée descente. Et puis, une autre course de sélection à peu près dans la même période, en avril, uniquement sur montée sèche. Donc, si tu fais les deux courses de sélection et que tu es sélectionné aux deux, tu peux courir les deux. Sinon, tu fais une des deux.
Ok, ouais. Donc ça, c'est le mois de mai, championnat d'Europe, c'est le gros championnat de l'année. Donc
Ouais, bah le seul en fait, ouais. Le seul grand championnat comme ça alterne d'année en année. Ça va
mais par
être
contre,
fou.
après, j'ai envie de dire, on attaque la vraie saison de la course en montagne parce que ça y est, c'est vraiment au mois de juin où on lance les hostilités. Là, tu m'as mis Broken Arrow, semi-marathon d'Aletsch. Et Nerivu Molaison. Alors, qui est Coupe du Monde là-dedans?
Alors là, ce qui est Coupe du Monde, c'est juste Broken Arrow. Donc ça, c'est aux
Ok.
États-Unis. C'est une gold label. Donc c'est vraiment
À
une manche.
Gold.
Ouais, c'est une manche importante de la Coupe du Monde. Là-bas, il y a deux formats. Donc souvent, en fait, parce qu'on n'a pas trop discuté les points de la Coupe du Monde, je fais une toute petite aparté là-dessus. En gros, tu peux gagner la Coupe du Monde au général, c'est-à-dire on prend tes, alors je sais plus, je l'ai noté, c'était 3 ou 4 meilleures courses.
Ouais. Tu... Non, les 6, je crois. Hein.
Ouais, oui, c'est ça, c'est les meilleurs
Quel que
6.
soit le label et le format.
Voilà, c'est ça. Donc en gros, tu peux faire pendant la saison une montée sèche, 3 longues et 2 classiques up and down. Et en gros, ça, on additionne tes points et tu as gagné la Coupe du Monde. Et ensuite, donc ça, on va dire que c'est le gros globe. Et ensuite, tu as les petits globes de spécialité. Et donc là, en fait, c'est les meilleures trois courses de chaque spécialité. Donc, si tu fais trois formats longs ou trois formats montée sèche ou trois formats montée descente, bah, tu peux gagner la Coupe du Monde d'une spécialité. Et donc, c'est pour ça que certaines étapes de Coupe du Monde, de même qu'en biathlon, bah, il y en a certaines qui ont la mass start, le sprint, la poursuite, d'autres qui ont le relais, bidule, machin truc. Et bah, certaines étapes de Coupe du Monde en course en montagne, c'est pareil. Elles ont une montée sèche, une montée descente, ou alors une montée sèche, une longue, etc. Et donc là, Broken Arrow, eux, ils ont une montée sèche et ils ont une course en montagne longue, donc une longue mountain.
Ah ok, et tu peux, bah évidemment, tu fais le déplacement, tu fais les deux, quoi.
Bah, ça dépend vraiment parce que si c'est montée sèche et montée descente, pourquoi pas. Le long, il faut voir parce que le long, à partir d'une heure et demie d'effort, ils disent que c'est long. Donc, si c'est une heure et demie, comme à Fleta Trail par exemple, où tu as une montée sèche et le lendemain, une heure et demie, souvent tout le monde fait les deux. Par contre, si ton long, c'est comme à Camp Franck, c'est 45 avec 3005, bah, le mec qui est fort sur 30 minutes d'effort, il va peut-être pas aller se farcir 3500 mètres de dénivelé, quoi. Donc,
Ah
ça dépend
oui,
vraiment.
ça doit trier un peu les athlètes.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, Broken Arrow, j'y suis jamais allé, mais il paraît que c'est vraiment joyeux.
Ok, ouais. Alors on va faire une petite pause, on va faire la partie 2 après, ok, Sylvain?
Ok.
À tout de suite.
À toutes.